Vous écoutez RTL.
De l'aventure en très haute altitude. Bonjour Antoine Girard.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes parapentiste de l'extrême. Bon, on imagine un peu ce que ça veut dire. Pour bien situer quand même la hauteur de vos exploits, on va commencer par un record. 23 juillet 2016, vous êtes au Pakistan. Vous décollez, je crois, à peu près à 5000 mètres d'altitude. Pour aller jusqu'où? C'est quoi votre objectif ce jour-là?
En fait, j'étais dans un voyage de un mois en vol bivouac, c'est-à-dire je pars avec ma tente et mon parapente et je me balade dans un pays. Mmh. Et là, le 23 juillet, je me retrouve dans les Karakoram, donc en Himalaya, au milieu de 5 sommets de 8000 mètres. Et mon idée, c'est aller, je suis alpiniste à la base, c'est aller voir ces sommets de plus près avec le parapente. Et j'ai eu la chance de survoler un de ces 8000 qui est le Broad Peak. Et je survole à 8157
mètres. 8157
mètres
en parapente. C'est un record, ça?
Ça, c'est un record. Et c'est la seule et unique fois où on a réussi à monter avec des thermiques à 8000 mètres, au-dessus de 8000 mètres en parapente.
Ah là, le record tient toujours, en fait.
Ah, il est toujours là. Et on n'a toujours pas réussi. J'ai essayé de le battre cet été, mais.
Mais si, vous allez y arriver. Allez survoler des sommets de 8000 mètres en parapente. Forcément, c'est un sport à risque. Surtout quand l'orage gronde. Récit à venir sur RTL au milieu des éclairs.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Can you tell me your name first of all and where you're from?
My name is Antoine Girard. I come from France.
RTL.
Sur les parapentes aujourd'hui, on a la voile. On est suspendu sous cette voile justement.
La curiosité est un vilain défaut.
Gros spoiler, c'est pas en regardant des vidéos sur YouTube malheureusement qu'on apprend le parapente.
Mais peut-être en écoutant une bonne émission sur RTL. En tout cas, on va vous donner quelques conseils. Vous le savez, dans la curiosité, on aime les aventuriers, ceux qui repoussent leurs limites. Et on est heureux de recevoir Antoine Girard, qui est donc parapentiste de l'extrême. Alors, vous avez commencé à nous le raconter, ces sommets de l'Himalaya là que vous survolez à plus de 8000 mètres d'altitude. Peut-être il faut rappeler comment ça marche, le parapente, pour prendre conscience de ce que ça représente de monter aussi haut. C'est quoi un parapente?
Le parapente, c'est simplement une voile qui va voler, qui va descendre. Et en fait, nous, on va utiliser ce qu'on appelle les thermiques. Alors, c'est le soleil qui va chauffer une matière, ça peut être du rocher, du terrain, peu importe. Mm-hmm. Cet air chaud va monter, et nous, on va utiliser cet air chaud pour... on fait des cercles dedans, comme on voit les oiseaux souvent qui tournent en rond. Ouais. On monte dedans dans l'ascension, et quand on est au sommet de l'ascension, on part plus loin chercher notre thermique.
Il n'y a pas de moteur dans un parapente.
Il n'y a pas de moteur du tout.
D'accord.
Et pour monter aussi haut, c'est-à-dire jusqu'à 8000 mètres, vous avez un équipement particulier?
Uniquement des vêtements chauds. Après, tout le reste reste classique, comme ici.
Il n'y a pas besoin d'oxygène? Sur la couverture de votre livre « En vol vers les 8000 » qui est publié aux éditions du Chemin des Crêtes, alors je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que vous avez quand même un peu d'oxygène dans le nez.
Il faut voir que ce voyage-là durait un mois. Et j'avais une bouteille de 3 litres d'oxygène pour tout le voyage.
En plus du bardac?
Uniquement, exactement. Uniquement pour la sécurité. C'est-à-dire que si je fais un malaise à cause de l'altitude, je peux la mettre en marche. J'avais 2 heures d'autonomie d'oxygène.
Combien ça pèse, votre barda?
Je pars en moins d'autonomie quasiment, à plus de 20 jours. J'ai 35 kilos sur le dos.
Oui, donc, c'est pour ça que vous êtes... Je vous dis que c'est pour ça que vous êtes bien musclé du haut, là. Enfin, vous êtes sûrement musclé du bas aussi.
On ne veut pas le savoir. Votre terrain de jeu préféré, c'est le Pakistan. Pourquoi?
Alors, le Pakistan, c'est la plus grosse concentration de hautes montagnes dans le monde. Ah oui. J'ai beaucoup volé dans beaucoup, beaucoup de pays, pas mal dans l'Himalaya. Et dans l'Himalaya, c'est là où il y a les plus hautes montagnes regroupées. C'est-à-dire toutes les montagnes sont à 6000-6005 et c'est un terrain de jeu qui est immense et c'est absolument magnifique.
Alors tiens, on raconte une expédition. Donc là, vous êtes au Pakistan, ce dont vous nous parliez. Vous êtes posé à 5300 mètres d'altitude. C'est plutôt la fin de journée et là il y a un orage qui éclate. Ça commence pas mal, c'est quoi? C'est du son et lumière en quelque sorte.
Bon, oui, c'est quoi, très souvent des orages, ouais. Et comme souvent ça se déclenche. Moi j'étais sur ma petite crête, et puis c'est de nuit. Et puis là, je me rends compte qu'il y a l'électricité statique de partout. Donc dès que je fais un mouvement, il y a un grand éclair qui passe dans la tente. Je m'amuse à essayer de faire les plus grands éclairs possibles.
Vous avez des cheveux plutôt longs, ils sont dressés sur
la
tête, c'est
et
ça?
Et rapidement, ça empire. Les cheveux se dressent sur la tête, ils essayent d'accrocher la tente sur les côtés. Alors ça m'amuse rapidement. Puis au premier impact de foudre à quelques mètres de moi, on rigole pas. On voit le sol qui tremble.
Vous avez eu un impact de foudre qui est tombé.
Quelques mètres. Donc j'ai senti le sol trembler. Donc là, un peu panique. Je me dis, non, là, il faut bouger, il faut partir. Et puis je réfléchis que je suis sur une crête. Il n'y a aucune échappatoire possible. Il faudrait que je cours des kilomètres et des kilomètres pour partir.
Mais vous n'avez pas un système de paratonnerre intégral?
Il n'y a rien du tout.
Ah,
et au contraire, il vaut mieux éviter le paratonnerre, ça va attirer la foudre sur soi.
Oui, mais du coup, vous pouvez... fuir la tente et laisser la foudre... Enfin, je sais pas.
Détruire la tente consciencieusement.
Très rapidement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune échappatoire, que la seule chose que j'avais à faire, c'était attendre et espérer que la foudre me frappe pas.
Mais il y a eu combien d'impacts de foudre comme ça?
Une petite dizaine, parce que c'est venu en plusieurs fois, c'est parti, revenu.
Qu'est-ce que vous avez fait pour passer le temps, si j'ose dire?
Alors, le problème, c'est que moi, je suis là à attendre, je peux rien faire. Et en fait, c'est attendre la mort quelque part, parce que ça tombe dessus ou pas. Et en fait, pour moi, dans la tête, j'ai pas réussi à le supporter. Donc j'ai eu l'idée, j'avais mon instrument de vol qui était une tablette qui permet de me repérer en GPS. Mmh. J'ai mis un film dessus, j'ai mis le son à fond. Et j'ai essayé de m'occuper d'esprit pour pas penser à ce risque-là. Et puis, il fallait attendre.
Ça a duré longtemps, cette tempête,
pas mal, presque 2 heures. Hein.
Ah, vous avez eu le temps de regarder le film en entier?
J'ai rien compris au film. J'ai essayé de me concentrer pendant 30 secondes, déconnecté. On peut l'imaginer, c'était un peu long.
Et en vol, qu'est-ce que vous faites si un orage menace?
Alors, dès qu'il y a l'orage qui approche, on va se poser très vite. Il y a le danger objectif avec la foudre, etc., mais c'est rare. Le vrai danger des orages, c'est que ça fait de l'eau qui tombe, et l'eau qui tombe génère un mouvement de masse au niveau de l'air et génère des vents très très forts.
Donc vous sentez le vent forcir en quelque sorte. Le risque, c'est quoi? C'est d'être embarqué en altitude, en très très haute altitude.
Dans le livre, je raconte, à un moment, je me fais prendre dedans avec des vents à plus de 90 km/h, et moi, en parapente, on vole à 40 km/h. 90, on est à 50 km/h dans le mauvais sens. Ouais. Je me mets face au vent et je recule et ça dure pendant 3 km. Je recule dans une vallée où je me fais très peur parce que je suis en danger.
Mais vous avez pas de point météo quand vous êtes avec le parapente, je sais pas si on dit sur, dans, dedans, enfin bon, quand vous êtes en parapente, il y a pas, je sais pas, sur une tablette un point météo qui vous dit attention à 5 km.
Comme les navigateurs,
orage,
en fait,
comme les navigateurs.
Si on est dans les Alpes, on pourrait.
Ah, vous pouvez avoir ça.
Dans les Alpes, si on a du réseau. Là au Pakistan, il y a rien du tout, c'est que à l'œil. Mais la météo ne change pas en 5 minutes. Il faut au moins un quart d'heure, une demi-heure. Donc on le voit arriver, on a le temps généralement de se poser et prendre les devants.
Voilà, anticiper, prévoir la météo, prévenir les dangers. Bon, ça semble possible. Mais que faire quand la menace vient des talibans? On vous raconte cette frousse dans l'Himalaya.
RTL.
Les chevaliers du ciel.
Je m'appelle Antoine Girard et l'idée du projet va être de partir en expédition au Pakistan.
À deux pas du soleil.
Curiosité est un vilain défaut.
Premier objectif du projet va être de tenter de faire 1200 km au Pakistan, en vol bivouac. C'est vrai que dans les Alpes, on a par exemple le téléphérique.
Avec Anaïs Bouton.
Nous, l'idée, c'est montrer que le parapente peut remplacer ce téléphérique-là.
Et Thomas Hugues.
On a entendu Johnny Hallyday, on a entendu Steve Miller Band, on est toujours avec le parapentiste de l'extrême, Antoine Girard. Alors grâce à vous, on découvre ce sport de dingue, hein. Vous survolez des sommets à plus de 8000 mètres dans l'Himalaya.
Oui, et puis Anaïs, on est sûr qu'il y a un jeune garçon qui nous écoute avec passion en ce moment sur RTL, c'est Nicolas. Il a 12 ans, il vit en Mayenne, il est cloué au lit par la maladie en ce moment. C'est son papa qui nous a écrit pour nous dire qu'il ne ratait pas la curiosité et qu'il adorait les récits d'aventuriers. Ça tombe bien, on en a un. Vous êtes d'accord pour lui dédicacer votre livre?
Bien sûr, c'est Antoine Girard. Un peu le temps.
Bon, super. Antoine Girard en vol vers les 8000, vous allez avoir. Et donc, Nicolas, tu vas avoir une dédicace, on t'embrasse très fort. Quand vous aviez, 12 ans, comme Nicolas, vous rêviez déjà de sommets, de montagnes, de parapentes?
Ah, complètement. Moi, j'étais perdu dans les récits d'aventure, plutôt d'alpinisme. Mais complètement, ça faisait beaucoup rêver.
Vous avez commencé par ça, par l'alpinisme?
Exactement. Alors, l'escalade au début, parce que c'est pas évident qu'on a 12 ans de faire d'alpinisme. Mais dès que j'ai eu un peu plus vieux, le 18 ans, j'étais en alpinisme très vite.
Et vous êtes tombé dans le parapente, si j'ose dire, à quel âge, à quel moment?
Beaucoup plus tard.
Parce que c'est un sport difficile, non? On a l'impression à apprendre, non?
C'est pas forcément très difficile. On peut apprendre très vite, avec une semaine de formation, on est autonome, on peut voler seul, dans les conditions le matin ou le soir. Après, c'est un sport qui est très complexe et on va mettre de nombreuses années à devenir très performant.
Pourquoi vous dites matin ou soir? Parce que c'est plus dangereux l'après-midi?
Parce qu'en fait, on vole grâce au thermique. Thermique, il faut qu'il y ait du soleil. Donc le matin, le soleil n'est pas encore chauffé. Et le soir, le soleil a baissé. Donc il y a moins de thermique, donc on peut voler facilement le matin et le soir.
Donc quand on est débutant, c'est plus facile le matin et le soir, j'ai bien compris. D'accord. Alors, votre passion, on l'a compris et vous nous l'avez raconté, elle vous mène très haut, vers les 8000, en vol vers les 8000, c'est le titre de votre livre. Et donc, vous allez régulièrement, en tout cas vous y êtes allé, au Pakistan. Moi, j'entends Pakistan, j'ai une lumière qui s'allume, danger, taliban. Vous avez eu aussi ce souci, cette crainte quand vous étiez là-bas?
Oui, il y a toujours la crainte parce qu'on entend parler effectivement beaucoup du Pakistan. Mmh. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Et plusieurs fois, j'ai vu que tout le monde est armé là-bas. C'est un pays où tout le monde veut se défendre et armé. Et on a toujours peur de rencontrer ce taliban-là.
Il y a eu des expéditions, des alpinistes qui ont été, pris en otage ou pire?
Oui, en 2013, au camp de base du Nanga Parbat, il y a une bonne dizaine d'alpinistes qui ont été assassinés par le taliban.
Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé à vous, Antoine Girard? D'abord, peut-être la peur de les rencontrer, c'est ça? Racontez-nous. Un jour, vous devez aller chercher de l'eau. Ça commence comme ça.
Ça commence comme ça. En fait, il y a un soir où je suis pas loin du Nanga Parbat, donc je sais qu'il y a cette poche de taliban qui est pas très loin. Je vais chercher de l'eau.
Vous êtes tout seul, hein ?
Je suis seul. Je suis en solitaire là sur cette
avec
expédition.
Avec vos 35 kilos de barda.
Exactement.
Et la peur du taliban. Non, mais on se remet un peu dans le.
Je suis dans la montagne et en fait, j'ai pas le choix. Faut que j'aille chercher de l'eau pour cuisiner ou boire. Et je dois passer. Je me rends compte quand je pars, je vois un bâtiment très glauque qui fait peur. Ça ressemble à une très grande bergerie avec beaucoup de cris de gens. Mais je vois aucun... Il n'y a pas d'animaux.
Ouais.
Donc je commence à m'inquiéter. Je vais chercher de l'eau. Donc un peu la psychose. J'arrive à rentrer à mon camp sans me faire voir. Donc j'étais pas très fier. Et le lendemain matin, je pars. Et mauvais temps me fait poser juste à côté...
De cette bergerie
Non, un peu plus loin, mais pas loin de cette zone-là. En fait, il pleut, donc je pose. Et à plus basse altitude, à 3300 mètres. Et là, en fait, il y a... imaginez un Pakistanais qui voit un parapente posé dans la montagne. Tout de suite, il accourt. Il vient, il me voit, il arrive, on essaie de discuter. Impossible. Il parle un langage dialecte. Moi, je parle 2-3 mots d'ourdou, mais lui, il a un autre dialecte. Il y en a une dizaine, donc voilà.
Mais il y a de l'agressivité ou pas?
Pas du tout. Puis il y a un second, un troisième, tous les autres gens qui arrivent sont armés. Ils regardent mon matériel et j'ai le droit à tout checker ce qu'il y a dans mon sac, etc. Impossible de discuter. Donc on voit des gens armés, on peut pas discuter, ça commence à monter un petit peu. Ouais. Et enfin, il y a une des personnes qui parle 3 mots d'anglais. Vraiment 3 mots. Il me demande qui je suis, ce que je fais. Moi, j'ai peur. Je suis pas honnête, je mens sur pas mal de choses. Je leur dis que je viens du Nanga Parbat, que je vais au village qui est dessous, qu'on m'attend. Je suis presque en retard, donc faut pas me retenir.
Donc là, il croit ou pas?
A priori oui, parce qu'il se retourne vers ses copains, il raconte tout ça. Et là, tous ses copains prennent leur téléphone et ils appellent. Et là, dans sa tête, qu'est-ce qui se passe? On se dit, tiens, ils sont en train d'appeler leurs copains du Taliban pour dire, on a un petit Suisse, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je suis stressé. Je prends mon parapente, je vais pour m'envoler tout de suite parce que je suis un peu en panique. Et là, leur chef arrive avec l'arme à la main, il se met devant moi, il crie un grand stop.
Oh là là.
Là, moi, je suis décomposé. Et là, il me regarde, il rigole, il pose son arme, il prend son téléphone, il fait « selfie ». Et on a le droit à 10 minutes de selfie.
C'est pas vrai.
Quelle histoire.
Mais ils ont joué avec moi parce qu'ils voyaient que je stressais. Ouais. Ils ont fait monter la pression.
Bon, on aime bien les histoires qui se terminent comme ça, Antoine Girard.
Allez, autre pays, la Nouvelle-Zélande, autre aventure. Comment faire du parapente avec un pouce coupé jusqu'à l'os? On vous raconte ça dans un court instant, les curieux.
Il faut savoir que l'avantage du parapente, c'est qu'à part le bruit du vent, on n'entend rien.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
10 mètres secondes en 6005, c'est monstrueux. 12 mètres secondes et demi. Oh putain!
Je vole! Jack!
La curiosité est un vilain défaut sur RTL.
Immersion avec notre invité, le parapentiste et aventurier Antoine Girard, parce que ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de votre chaîne YouTube. Alors, je vais vous faire un aveu, moi j'ai fait du parapente une ou deux fois, et c'est horrible parce que j'ai un problème d'oreille interne, et donc j'ai le vertige et j'ai le mal de mer en l'air. Faut le faire quand même, donc j'aime pas du tout quand on fait des grands tours, des virages, etc. C'est un plaisir pour vous, j'imagine, de jouer avec le vent, avec... Ça veut dire quoi? Vous pouvez presque faire un soleil, un tour complet? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un parapente?
On peut absolument tout faire, Corbassi.
Maintenant, ça veut dire quoi?
On peut tourner, on peut faire des loopings, on peut se déplacer.
Donc, vous retrouvez la tête en bas, on est bien d'accord?
On peut, ouais.
Pendant un looping. Et c'est pas dangereux, ça?
Faut maîtriser, c'est comme tout.
Je vais pas me lancer là-dedans. Bon, allez, après le Pakistan, nous voilà en Nouvelle-Zélande, 2015. Là, vous êtes deux, c'est ça, pour cette expédition. Et alors, un jour, vous devez décoller dans des conditions un peu difficiles. Il faut nous décrire un peu l'environnement. Qu'est-ce qui se passe?
En fait, on était bloqués par une zone avec beaucoup de vent, des arbres absolument de partout. Et il n'y avait qu'une route au milieu. Et on décide d'essayer de décoller depuis la route. Mais la route n'est pas assez large, donc on décide d'enlever les quelques ronces qu'il y a autour pour essayer d'agrandir l'espace. Et pendant que je débroussaille, moi j'ai un petit couteau suisse parce que ça permet de tout faire en même temps. Et malheureusement, le couteau, je ne sais pas ce qui se passe, même avec du recul, je ne sais pas. Il se referme sur le doigt et là je suis ouvert vraiment profondément. Je veux dire, l'os qui est atteint, ça, c'est vraiment profond et on n'a rien.
Et alors
rien, ça veut dire quoi? Pas de trousse de secours?
Le minimum, mais on n'a pas assez de compresses, ni quoi que ce soit.
Vous avez des stéri-strips et de l'alcool à 90, ça même pas?
Ah, c'est désinfectant, si, mais là sur le coup, le pouce, ça saigne énormément. Il y a des artérioles dedans qui ont été coupées. J'avais un peu de papier toilette, on a fait un garrot, on a eu du scotch, on a vraiment pressé très fort. Et on s'est dit, là c'est urgent, que je vais perdre mon pouce, c'est de retrouver un hôpital.
Et où ils sont, où les premiers secours?
Et là on est en sauvage, à pied, il faudrait peut-être 2 jours de marche, 3 jours. On se dit, en volant, dans quelques heures, on peut y être.
Mais comment on vole avec un pouce en charpie?
En fait, je prends la commande, moi, avec le poignet. Donc j'ai réussi, avec l'adrénaline à décoller, le copain a mis un peu plus de temps, parce que lui était un peu moins stressé, voilà, on est parti. Et en fait, en quelques heures, on n'a pas réussi à rejoindre la civilisation, on a dû reposer dans la nature, et là j'ai eu beaucoup beaucoup de chance, parce qu'on tombe sur une petite cabane de pêcheurs, et quand on rentre dans la cabane de pêcheurs, on trouve une trousse de premier secours, tout ce qu'il faut pour réparer la plaie.
Il y avait personne à l'intérieur de la cabane,
il y avait tout. Non, non, alors c'est les cabanes qui sont faites pour, en fait, en Nouvelle-Zélande, c'est très sauvage. Ils mettent des petites cabanes pour les chasseurs et les pêcheurs un peu partout. Alors, faut prendre un permis pour ça.
Ah,
complètement. On prend juste un permis à l'année. Et on peut aller de cabane en cabane.
Ça vous a sauvé le pouce, ça?
De retrouver quelqu'un qui a laissé une trousse de premier secours.
Ouais, qu'est-ce que vous avez fait?
On a pu nettoyer, désinfecter. On n'a pas fait de point. On a hésité, mais si on n'avait pas de vrai fil pour ça.
Ouais.
Mais on l'a pu suffisamment le nettoyer pour le garder comme ça. J'ai pu continuer le projet. Je suis allé à l'hôpital après, mais j'ai pu finir le projet sans infection, sans quoi que ce soit.
Mais donc là, vous nous décrivez un pouce qui est coupé, je crois, au milieu de l'ongle, c'est
voilà,
ça?
Voilà, de l'ongle et qui descend au niveau vertical. Sur le devant.
Mais comment vous faites pour faire du parapente? Encore une fois, il y a plus de sensation dans le
plus
dans,
du tout.
Le
pouce, il
sentait plus rien.
Je sentais plus rien du tout. Mais le parapente, on a une dragonne comme en ski, dragonne du bâton.
Ouais.
Et moi, je pouvais piloter avec mon poignet. C'est-à-dire que c'était accroché au poignet, je tirais dessus et ça.
D'accord.
Alors, autre accident que vous rencontrez dans votre livre, En vol vers les 8000, publié aux éditions Chemin des Crêtes, cette chute à cause du vent, vous êtes au Pakistan, on y retourne. Alors, qu'est-ce que c'est ça?
Mais en fait, encore une fois, du vent très violent. Et au-delà de 40 km heure, on recule. Là, il y avait 60 km heure, je recule, je passe derrière la crête. Donc derrière une crête, ça fait un obstacle. Le vent devient, qu'on appelle en rouleau, il fait un peu n'importe quoi. Et forcément, on chute. Là, je suis tombé peut-être de 6 mètres par terre. Mais il faut imaginer que je tombe de 6 mètres avec 35 kilos sur le dos.
Ah ouais.
Donc c'est comme tomber de 10 mètres parce qu'on est écrasé. Et sur l'impact, moi, je perds connaissance. Mes jambes s'effondrent, je perds connaissance. Ça dure pas longtemps.
Qu'est-ce qui vous a réveillé?
En fait, il y avait dans la chute, là, j'avais une bouteille de gaz pour le nourrir qui a explosé. Et en quoi elle a explosé, elle a eu des trous dedans.
Ah oui.
Et sur un caillou, le réchaud, je sais pas, on l'a trouvé. Et c'est l'odeur de gaz qui m'a réveillé. Donc je savais que ça faisait pas longtemps que j'étais dans les pommes, puisque ça dure peut-être 2 minutes la sortie du gaz. C'est des petits trous, ça sort. Et il restait encore un petit peu de gaz, c'est la fin.
Et les jambes, vous sentiez vos jambes?
Je savais plus du tout où j'étais. Comme souvent dans les accidents, on perd notion. Et j'ai dû aller me toucher les jambes, les bras, etc. pour savoir ce qu'il y avait. Il y avait du dégât un petit peu aux jambes, mais ça allait plus ou moins.
Bon ben voilà, récit d'un aventurier en vol vers les 8000. Antoine Girard, votre livre est publié aux éditions du Chemin des Crêtes. Nicolas, comme promis, on te l'envoie dès qu'il a été dédicacé. Merci beaucoup.
Merci, Antoine, c'est Girard. La fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver évidemment 24h sur 24 sur rtl.fr et vous pouvez aussi télécharger nos podcasts.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.